RFI. Grand reportage.
Les jeunes de Guinée-Conakry représentent le contingent le plus important des mineurs non accompagnés qui arrivent en France. La Guinée-Conakry, 12 millions d'habitants, se tient à l'écart des conflits récents de Côte d'Ivoire ou du Mali voisin. Mais les plus jeunes prennent, seuls, la route de l'exil, dénonçant persécution politique, violence familiale et abandon social. RFI est allé à la rencontre de ces adolescents et de ceux qui les accueillent en France. Mineurs guinéens, les raisons du départ, un reportage d'Olivier Favier.
On est dans le 20e, on est dans un jardin. Ici, on fait des distributions de déjeuner pour les mineurs isolés étrangers qui sont à la rue. Les Midis du Mi, l'association Les Midis du Mi. Jeudi et vendredi, on est entre 250 et 270 jeunes. Le week-end, samedi, dimanche, ils sont une centaine maintenant. C'est des jeunes, beaucoup, qui sont vraiment à la rue, quoi.
Beaucoup de Guinéens ?
Énormément de Guinéens.
Une majorité ?
Une majorité de Guinéens.
Avec des profils très différents ?
Très différents. Moi, j'ai pas de profil type du tout, des raisons, des départs, ni rien, mais il y a beaucoup de Guinéens. Oui, c'est étonnant. C'est surtout des Guinéens, en fait. Je crois que c'était toujours.
Depuis un an et demi, il y a toujours...
Ouais.
Au niveau scolaire, c'est des jeunes qui ont été scolarisés déjà, ou qui sont... scolarisés antérieurement, c'est variable là aussi.
C'est hyper variable, ouais.
C'est à Paris qu'on trouve le demi, le dispositif de la Croix-Rouge chargé par la mairie d'accueillir les mineurs non accompagnés. La plupart pourtant voient leur minorité contestée et sont livrés à eux-mêmes. Ce sont ces déboutés qu'on retrouve au déjeuner du jardin Palikao, à deux pas de la bibliothèque où ils suivent des cours de français. Ce jour-là, comme souvent depuis près de deux ans, Manuela assure avec d'autres bénévoles la distribution des repas.
Il y en a qui n'ont jamais été à l'école. J'en connais aussi qui ont été à l'école, mais qui ont dû arrêter l'école parce que c'était plus possible, parce qu'il n'y avait plus d'argent, parce que la famille pouvait plus et qui ne pouvaient plus continuer à aller à l'école, mais qui savent déjà lire et écrire un peu. Principalement des garçons. Très très peu de filles, parce qu'en général, on espère que les filles sont mises à l'abri. Mais encore vendredi dernier, il y avait une fille de 15 ans guinéenne qui avait été rejetée par la Croix-Rouge, qui était là, mais c'est vrai qu'il y a, c'est principalement des garçons dedans. Presque que des garçons.
De filles, ce jour-là, il n'y en a qu'une, prise en charge désormais par les services de l'aide sociale à l'enfance. Elle est de passage dans le jardin Palikao pour revoir Manuela et pour raconter son histoire.
Je suis arrivée par mes propres moyens parce que déjà quand je sortais de la Guinée, je ne m'étais pas dit que j'allais venir en Europe et tout. Je suis juste sortie parce que ça n'allait pas en famille. Avant, je vivais avec mes parents, ma maman et mes jeunes sœurs. Vu que mon papa il est décédé, elle a dû se remarier avec le jeune frère à mon papa.
À la place du collège classique, Aïssatou est alors envoyée dans une école coranique qu'elle ne supporte pas. À son retour, son beau-père veut lui trouver un mari. Elle a 13 ans et décide de s'enfuir. En Algérie, elle est violée et vendue, puis parvient à rejoindre le Maroc et l'Europe. Les autres jeunes filles du foyer ont des parcours semblables. Tout ce qu'elle a souffert ne lui fait pourtant pas oublier ce qu'elle a fui.
L'excision, ça continue jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, ça continue. Et pour les mariages forcés aussi, ça continue. Genre, nous, les Peuls en Guinée, ça se passe plus dans nos familles que dans d'autres ethnies. Genre, les familles sont trop religieuses et ils ne veulent pas lâcher l'affaire, ils pratiquent, ils font ce qu'ils veulent. C'est dur. Même, ça fait même pas deux jours, là, trois jours, j'ai vu sur Facebook un homme de 30 ans qui a épousé une jeune fille de 12 ans en Guinée. Un peul malien. C'est compliqué. Pourquoi ? Les gens, ils lui ont critiqué sur Internet et tout. Ça se fait pas et tout. Vous êtes dans quel monde, vous ? Mais ils comprennent pas. Ça se fait tous les jours. Tous les jours, ça se fait. Donc, franchement, c'est difficile. Pourquoi nous, les filles ? Pourquoi ? C'est dur.
Un autre rendez-vous des jeunes déboutés, c'est l'Adji, dans le 19e arrondissement. Ici, les adolescents viennent monter leur dossier de recours auprès du juge des enfants. Parmi eux, il y a un an, se trouve Aïssatou. Elle a été accueillie et accompagnée par Sylvie, une enseignante en retraite devenue bénévole.
Le danger est multiforme et puis ça change selon les époques.
En 7 ans de permanence, Sylvie a vu passer nombre de mineurs guinéens.
On a eu bien sûr les enfants de personnes qui ont été massacrées dans un épisode tragique. Donc on avait de jeunes réfugiés politiques et puis on a eu les jeunes qui ont fui Ebola parce que un jeune qui vit dans la rue, c'est réellement une menace physique, ça pourrait traîner des microbes. Donc on dit aussi qu'ils portent malheur et comme ça on se débarrasse de ces jeunes, donc ils devaient quitter. Mais le plus souvent, l'une des menaces, c'est la pauvreté et le peu de chances d'évoluer du pays. Si on reste dans son pays, on n'avance pas. Les jeunes disent, je suis venu ici, c'était pour aller plus loin. C'est réellement vital. La première fois que je m'en suis aperçue, c'était avec un jeune qui devait passer une radio des poumons et je l'accompagnais. Et le médecin m'a dit, vous avez vu ça? Vous savez ce que c'est? Ben non, je ne savais pas ce que c'était. C'était des petites écharpes minuscules qui étaient une quarantaine ou davantage de petits morceaux d'os. Et demandez-lui ce que c'est. Le gosse, il n'a pas voulu me l'avouer. Il a fini par me le dire le soir. Je l'ai questionné pendant toute la journée. Le soir, il m'a dit, bah oui, mon père, il me tapait, mais c'est normal. J'étais esclave et je ne faisais pas bien mon travail.
En 2016, selon un rapport, 80% des jeunes qui se sont présentés au dispositif d'évaluation à Paris ont vu leur demande rejetée. Alors beaucoup ont tenté leur chance dans les villes proches de la région parisienne. Direction Orléans, où les Guinéens sont particulièrement nombreux.
Bonjour.
Moussa, Mamadou, Lansana et Mamadi sont chez la photographe Géraldine Arechteanu dans sa maison en bord de Loire. C'est en 2016 que Mamadi a poussé ce portail pour la première fois.
Chez nous, quand tu dis l'Europe, tu vas penser que ouais, c'est paradis, il y a tout. Donc on a fait mon acte de naissance et carte d'identité. Je suis parti. Après, je l'ai dit à mes petites soeurs. Il dit non, moi je veux m'en occuper à tes petites soeurs. Mais depuis que je suis parti, lui et moi, non, on n'est pas parlé.
Mamadi vendait de l'eau à Madina, le grand marché de Conakry. C'est de là que partent les jeunes migrants de la capitale. Sur les 150 euros qu'il lui a promis, son patron ne donne à Mamadi que 30 euros pour payer la scolarité de ses sœurs. Le reste, il le met soi-disant de côté. Et pour ne pas payer ses dettes, son patron a une idée. Il offre à Mamadi un aller simple pour l'Europe, accompagné par un autre migrant plus âgé.
J'ai travaillé une année, 8 mois. Bon, j'avais même pas en tête que ouais, je veux venir en Europe un jour. Le patron que je travaille, il ne m'a pas dit la vérité. Moi, il m'a juste dit tu pars en Europe, mais il ne m'a jamais dit comment je vais partir. Juste vous allez partir à Bamako, après Bamako, vous allez continuer.
À 19 ans, Mamadi vit toujours à Orléans, où il est papa d'une petite fille depuis août 2018. Après une formation de couvreur, il vient d'obtenir un premier CDD de 4 mois.
Ma mère et mon père, ils ont décidé à mon âge de 8 ans.
Près de lui, il y a Moussa, fraîchement arrivé lui aussi. Le temps a passé, mais il a toujours du mal à raconter son histoire.
Donc j'ai grandi avec mon oncle. Les femmes de mon oncle m'ont maltraité. Souvent, ils m'ont tapé, ils m'ont frappé jusqu'à ce que j'ai un problème de poignet. Ils m'ont tapé mon poignet après les déplacer. Toujours, il fait mal même aujourd'hui. Donc, c'est à cause de ça que j'ai laissé en Guinée. Parce que j'ai souffrance là-bas, donc maltraité tout le temps, donc c'est à cause de ça. Donc il a dit qu'il faut que je quitte en Guinée pour venir aventurer comme ça, donc je vais débrouiller tout seul. Alors j'ai fait là-bas après ces 7 mois à Libye, 4 mois de prison, 3 mois de travail, jusqu'à j'ai traversé en Italie.
Durant plusieurs mois, Moussa est resté dans sa chambre d'hôtel, sans école, sans soutien, il se méfie du monde extérieur. À bientôt 19 ans, il suit lui aussi une formation de couvreur, mais il n'a pas achevé ses démarches pour sa demande de papier, compliquée par des tracas administratifs qu'il peine à comprendre. Mamadi et Moussa témoignent d'une jeunesse à la dérive, dès lors que les parents viennent à manquer. En plus des orphelins, on trouve les victimes de la polygamie, qui font les frais des rivalités entre épouses. C'est le cas de Lansana, qui a été successivement le camarade de chambre de Moussa et de Mamadi.
Ma maman, elle était déjà épousée dans une autre famille, donc où elle a eu 4 enfants. 2 garçons et 2 filles. Elle s'est divorcée jusqu'à le moment où elle a retrouvé mon père. Donc ils se sont mis d'accord, ils se sont mariés. Tout allait bien, mais après, à un moment, ça a commencé à ne pas aller. Ma cause de départ, c'est quand mon père maintenant est tombé malade, qu'il a perdu maintenant la vue, donc il ne pouvait rien faire. Jusqu'à ma marâtre, elle a prononcé que ma maman, elle est allée se marier dans une autre famille. Elle a fait tous ses enfants. Donc, elle a que moi. Donc, elle a dit à mon père qu'elle ne pouvait plus. Elle a décidé de partir. En partant, elle voulait m'emmener. Mais mon père s'est opposé. La situation a commencé encore à changer un peu. Jusqu'à le moment où aussi, mon père m'a appelé un jour le soir. Il m'a dit qu'il n'est plus en mesure de payer ma scolarité, donc il va falloir que je quitte l'école. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un garage de mécanique. Bah, à un moment, je me suis dit non, je ne peux pas rester ici comme ça, je n'ai pas ma place, tout le monde est contre moi. Ma marotte même, parfois, elle me traite de sorcier comme ça pour que les gens puissent s'éloigner de moi. Après un jour, je suis rentré, j'ai fouillé les tiroirs de mon père. Il y avait un argent, au moins 1 million de nos francs. C'est comme ça que j'ai pris ça. Après, je suis venu en Algérie. Comme ça, je pourrais être tranquille. Mais le voyage maintenant, l'idée du voyage est venue après. Mais c'est ce qui m'a fait sortir du chemin.
Pardon. Je sais avec qui.
Pardon. Non, c'est pas. Mais il faut que tu te tais quand même quelque chose.
Au niveau international, la Guinée n'est pas beaucoup connue.
Mamadou porte un regard profond sur son pays, la Guinée, et le désespoir d'une génération, la sienne, marquée encore par les massacres du stade de Conakry le 28 septembre 2009, un an avant l'arrivée au pouvoir de l'actuel président Alpha Condé.
Il n'y avait pas de migration parce que la Guinée, l'économie était stable, la politique était stable, il n'y avait pas de crise politique, sauf en 2007, qu'il y a eu de mobilisation partout en Guinée pour réclamer la fin de ce régime. Pour cela, les Guinéens ne voyageaient pas. Tout ça, c'est venu tout récemment. Le Guinéen vit en désespoir. Certaines cherchent après un métier, après avoir fini ses études. C'est des raisons qui poussent les Guinéens à sortir. C'est ça, il n'y a pas d'emploi. C'est les vieilles personnes qui contrôlent le pays. C'est eux aussi qui continuent à diriger le pays depuis la mort de Sékou Touré.
Mamadou est peul et fait partie de ces nombreux fils de militants de l'UFDG, le grand parti d'opposition, dont les pères ont disparu ou ont fini en prison au milieu des années 2010. Il est arrivé en France en 2016.
Moi, j'ai quitté le pays après l'arrestation de mon père, vers le 17 février, après la mort du journaliste Mamadou Koula, au siège de l'UFDG. Après son arrestation, on ne se sentait plus en sécurité. Il y avait mon oncle, je le dis oncle parce qu'il était ami de mon père, pour lui accorder des respects. C'est lui qui venait souvent nous rendre visite. C'est là qu'il m'a dit il faut que je quitte le quartier parce que sinon il a peur que je sois arrêté ou je sois tué ou des trucs comme ça. Il faut quand même qu'il essaye de me faire quitter le pays. Il m'a confié un homme qui était en voyage. Il dit que tu dois le suivre, tu dois lui faire confiance. Mais moi, je ne savais pas où je devais aller, où j'allais. Je ne connaissais pas c'est quelle destination, c'est quel voyage.
Tu vois ? La maison est calme. Ouais, peut-être c'était pour ça. Voilà.
Je veux à chaque seconde entendre ton cœur battre d'amour contre ma poitrine.
À 32 ans, Akimba est l'un des auteurs de théâtre les plus prometteurs de la scène francophone. Il vit à Montreuil, mais fait de fréquents voyages en Guinée, son pays d'origine. Pour passer les frontières, il n'a jamais connu les souffrances de ses jeunes concitoyens. Cet exil massif reste pour lui aussi en partie mystérieux.
Moi, c'est vrai que c'est quelque chose Je ne comprends pas, voilà, ce qui est arrivé ou ce qui arrive. Parce que moi, quand j'avais leur âge, je ne pouvais pas du tout m'imaginer, c'est-à-dire partir là, en mer, c'était pas du tout possible. Bon, ceux qui partaient, c'était des gens qui avaient 25 ans, 30 ans, en tout cas pas des mineurs. Voilà.
Mamou, la deuxième ville du pays d'où Hakim est originaire, est un grand carrefour routier. C'est aujourd'hui la ville d'où les départs sont les plus massifs.
Surtout, bon, beaucoup de ces jeunes viennent aussi de Mamou, de ma ville, par exemple, j'ai deux neveux qui sont partis de la Guinée, c'est des jumeaux. Donc il y a le premier qui est passé par l'Algérie, puis après le deuxième qui était là-bas au pays. Vous voyez les photos que l'autre postait, les photos où il était bien habillé et tout, donc il pensait que c'était la belle vie. Parce que les jeunes qui viennent ici aussi ne peuvent pas du tout, c'est-à-dire se faire comprendre, ils ne peuvent pas expliquer à leurs parents ce qui leur arrive. Pour les parents qui sont sur place, ils sont venus en France, quoi. Donc, et on oublie que c'est des enfants et que et les deux moi qui sont partis c'est vraiment des gamins quoi.
Durant des ateliers d'écriture en Charente où 90% des mineurs accueillis sont guinéens, Akimba a fabriqué une histoire à partir de tout le récit.
Il y avait beaucoup de jeunes guinéens, donc j'étais J'ai appris beaucoup de choses parce que je ne me rendais pas compte de tout ce que ces jeunes traversaient. C'est-à-dire on en parle tout le temps, des jeunes qui partent. Finalement, on banalise, c'est-à-dire le fait d'être avec eux, d'être vraiment en dialogue permanent. J'ai découvert une autre force voilà, de ces jeunes-là. Moi, je n'ai pas eu ce parcours-là, j'ai eu un autre parcours, donc tout était nouveau aussi pour moi.
La Guinée est avec la Somalie le pays où l'excision est la plus pratiquée, touchant plus de 95% des femmes. Ce n'est que depuis mai 2019 que le consentement de la première épouse est nécessaire pour la polygamie.
Moi, je viens d'une famille polygame. Je sais que, voilà, je connais bien les rivalités, ou même les violences aussi qui peuvent découler de ça. Les affrontements et puis chaque maman qui veut tout avoir pour ses enfants. Et voilà, ça c'est assez courant et ça date, ça ne vient pas d'aujourd'hui.
S'il reste discret sur la situation politique ou sur les tensions avec l'ethnie Peul à laquelle il appartient, Akimba dresse le portrait d'un pays sans avenir, y compris pour les plus diplômés.
Je pense aussi voilà, qu'il y a aussi une démission. Bon, au niveau politique, à chaque élection, les gens pensent qu'on pourra changer de système. Donc voilà, la gestion politique aussi pousse, je sais, beaucoup de jeunes à partir. Et la raison est simple, c'est parce qu'ils n'ont plus aucun espoir. Moi, j'ai fait mes études là-bas, d'informatique. Mais quand tu termines tes études, il n'y a pas du tout de... Tu ne sais pas quoi faire.
Le rêve d'une génération entière alimente toute une économie clandestine. À l'âge où l'inconscience invite à défier le destin, des milliers d'adolescents confient leurs espoirs aux passeurs qui rendent leur départ possible au désespoir des familles.
À partir du moment où un réseau se forme, et un réseau que pour les jeunes mineurs, parce qu'il y a un réseau qui s'est aussi créé pour ces jeunes-là, ce qui a facilité aussi le départ. Il n'y a pas que la motivation, en fait. Les réseaux, c'est-à-dire, existent, mais personne n'a... C'est créé. En tout cas, moi, c'est en discutant avec les jeunes ici que je sais un peu comment ça se passe. Il y a des adultes et puis des passeurs, tout un réseau derrière aussi qui s'enrichit voilà, de ce commerce-là. L'exemple des jumeaux, ils ont piqué de l'argent à leurs parents. Dans beaucoup de familles, c'est comme ça aussi. Les enfants, ils se cachent. Ils ne viennent pas, c'est-à-dire exposer le projet, par exemple, aux parents. Dire aux parents, bon, écoutez, je vais partir. Aucun parent ne peut accepter ça. Souvent, ils se cachent et ils sont en lien avec des réseaux donc, qui leur permettent de partir jusqu'en Algérie. Et puis, ou au Maroc, ou en Libye. Par contre, il y en a d'autres aussi qui font le parcours sans savoir où ils vont. C'est des mineurs, donc c'est l'innocence aussi. Dans l'atelier que j'ai animé, il y avait un jeune soussou qui vendait de l'eau à Conakry. Ça, c'est un phénomène courant. Et il a été embarqué comme ça par son cousin, mais qui est plus âgé. Donc il est venu jusqu'en France, il ne savait pas de tout qu'il venait en France. Il s'est retrouvé là et pendant le voyage et tout ça, il ne savait pas du tout où est-ce qu'il était, où il partait. Et j'ai vu 2-3 cas comme ça en Charente.
Qu'il a quelque chose qui va pas, quelque chose qui va pas bien, tu encaisses. Quelque chose qui tourne pas rond, tu encaisses.
Akimba a pris part à une campagne de l'Office international d'immigration pour tenter de décourager les départs en Guinée et encourager le retour de celles et ceux qui sont restés bloqués au sud de la Méditerranée. Cela suffira-t-il à ralentir l'exode? Rien n'est moins sûr. Restent ceux, nombreux, qui essayent de reconstruire leur vie en France. Pour eux, par-delà l'aide institutionnelle qu'il aurait parfois accordée, tout est affaire de rencontre, comme en témoigne Lansana.
Aujourd'hui, on n'arrête pas de grandir, quoi. Moi, je dirais qu'on grandit, on avance, quoi. Pour moi, on a beaucoup fait, quoi. C'est très joli à voir de la manière qu'on est arrivé, même pas 2 mois, 3 mois, ou bien 3 ans, 4 ans. On ne se plaint pas. Tout va bien, ça prend du temps, mais ça va. On a eu la chance d'avoir les gens qui ont pensé à partager notre peine, tu vois, qui se sont intéressés aussi. Parce que si tu vois qu'on a avancé ou bien qu'on avance, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont posé la question. Mais s'il n'y a personne qui s'intéresse de nous, on ne peut pas avancer.
Folo eteninika. Folo eteninika. Folo.
Folon, autrefois, chante Salif Keita. Tout ce qui t'arrivait, tu ne pouvais pas le dire. Tout cela n'intéressait pas les gens. Sissane, aujourd'hui, poursuit-il, on t'interroge, on nous interroge tous sur tout ce qui se passe. Pour Aïssatou, Asmiou, Lansana, Mamadou, Mamadi et Moussa, pour tous les autres qui vivent aujourd'hui parmi nous et pour celles et ceux qui sont morts sur la route et dont personne ne connaîtra jamais l'histoire. Pour Souleymane, arrivé à Paris un soir d'hiver.
Mineur guinéen, les raisons du départ, un reportage d'Olivier Favier.